France Musique.
Que c'est donc bête que c'est idiot de rire comme ça.
Anne des Vins, musique folle, Priscille Lafitte, France Musique.
Bienvenue dans la grande revue des années 20. Hier, nous étions à New York en compagnie des pianistes Rachmaninoff, Gershwin, Marilou Williams et Fats Waller. Et aujourd'hui, nous sommes à Chicago, en pleine prohibition, quand la ville s'enivre d'un tempo nouveau. C'est le hot jazz, défendu par Joe Oliver, Lee Lardin et Louis Armstrong. Au même moment, Sergei Prokofiev vient créer un nouvel opéra dans la Windy City, la ville ouverte à tous les vents. C'est parti pour une déambulation dans les rues de Chicago.
Hey, get on out of the way. What are you trying to do? Trying to knock the streetcar off the track? You're so dumb, you should belong to the Dick and Dumb Society.
I'm sorry, boss, but I got the sidewalk blues.
Chicago, South State Street. Un flux d'énergie traverse cette grande artère de la ville. Les trottoirs sont bondés. Une jeune femme s'arrête devant la vitrine d'un magasin de musique, le Jones Music Store. Lillian Hardin est fascinée par toutes les partitions en vitrine. Elle a une vingtaine d'années. Ses parents ont déménagé de Memphis depuis peu. Elle a reçu une solide formation musicale à la Fisk University de Nashville. Elle connaît ses spirituals et ses classiques sur le bout des doigts. Lillian décide d'entrer dans la boutique et d'acheter la partition d'un air qu'elle a beaucoup entendu siffler dans la rue. Elle s'adresse au vendeur, lui fredonne la mélodie et il se met au piano pour lui montrer. La jeune fille propose de la jouer à son tour. Elle déchiffre la partition très facilement en y ajoutant même quelques notes à elle. Et le vendeur lui fait alors essayer d'autres morceaux et il finit par lui proposer de devenir démonstratrice de musique. La jeune Liliane court chez elle, en parle à sa mère, la persuade qu'ainsi elle apprendrait tous les morceaux du magasin, qu'elle aurait une occupation avant la rentrée à la Fisk University. Le lendemain matin, elle retourne au magasin, toute excitée par ce premier job. « Je me suis mise à jouer toute la musique qui se trouvait sur le comptoir », raconte Lil Harding. Et à 2 heures de l'après-midi, l'endroit était plein de jeunes gens venus m'écouter. Lil Harding revient quotidiennement dans la boutique. On l'appelle l'enfant prodige du jazz. « Pas étonnant, plaisante-t-elle, que les gens puissent croire que j'étais une enfant. J'avais l'air d'avoir 10 ans avec mon col marin et mes 40 kilos. » Mais un jour, le grand Jelly Roll Morton de la Nouvelle-Orléans entre dans le magasin. Il s'assoit au piano. Le clavier se met à remuer, le plancher à trembler et le public à se balancer pendant qu'il attaque férocement les touches avec ses longs doigts maigres en marquant un double temps avec son pied à la pédale forte. « Je n'avais jamais entendu une musique pareille », se souvient Lil Harding. « J'étais ravie, sidérée et épouvantée. »
Dixieland had ever started when I played the Tiger Rag. Of course, we named it Tiger Rag, but we had a lot of other numbers around that it was supposed to be good. For instance, we'll say That's a Plenty. That's a Plenty, no, we won't say that. We'll say Panama. That was a very good hot number, and we played it pretty good around there.
Finalement, Jelly Roll Morton s'est levé et s'est tourné vers moi avec un sourire qui voulait dire « Que ça te serve de leçon ?» Le public du magasin attendait que je lui donne la réplique. « Pas moyen d'y couper », raconte Lillardine. Je me suis soudain rappelé qu'il n'avait joué aucun classique et j'ai attaqué avec assurance du Bach, puis du Chopin, et enfin la danse des sorcières qui a eu beaucoup de succès. La séance s'est terminée à mon avantage, je crois. Jelly Roll Morton est un personnage, un phénomène, un monument, un vantard, un Orson Welles du jazz, un homme aux ascendances françaises, un créole qui a assisté à la naissance de cette musique et s'en approprie volontiers la paternité. Il a bien connu les années d'effervescence à la Nouvelle-Orléans quand les musiques d'enterrement prenaient des airs de musique de fête à la pulsation irrépressible, quand les quadrilles et les musiques d'opérette tournaient au ragtime, quand les musiciens rivalisaient entre eux à partir d'instruments rafistolés. Jelly Roll Morton a sillonné la Louisiane, il est monté à Los Angeles, puis a rappliqué à Chicago, où les Cats, les musiciens de la Nouvelle-Orléans, cherchent à mieux gagner leur vie.
It seems like Chicago hadn't been started to be a beginning to be a freakish center. It seems like there was a lot of sayings about what different people would be doing in an uncultured way, and the sex appeal.
Jelly Roll Morton s'impose comme un maître du piano à Chicago, cet instrument qui était réservé traditionnellement plutôt aux femmes. C'est peut-être aussi pour cela que Jelly Roll Morton cherche à impressionner, voire à rabaisser toutes les pianistes femmes qu'il rencontre. De tous les musiciens, Jelly Roll Morton se distingue par une présence, un aplomb et du panache.
You did me that, you did your father, you did your mother, you did everybody.
you come too, cause your mammy don't wear no drawers. That's the dirty dozen, all the dirty loving dozen. The dirty dozen, yes, your mammy don't wear no drawers. Played in the houses in Chicago where they didn't mind about the language. Different places, sir. Sometimes I would visit these places. I was supposed to be one of the higher ups. But sometimes I'd walk in and catch those things. It'd be very embarrassing a lot of times, just the fact that old King Jelly Roll Morton was there. But I'd catch him and they wouldn't stop. They'd just keep on playing, you know. Some would care and some wouldn't. Gals that have their dress up way up to the ass, just shaking it and breaking it. At that time, they wore what you call the ladies did, the split drawers. They'd just be shaking it down, and some guy plunking on the piano, some rough looking guy, I wouldn't know who they were. They had several of them, and they'd sing it right over and over. Say all kinds of voices. Some of them meant something, some of them didn't have any rhymes, some didn't, so forth and all. So I had a bitch, wouldn't fuck me cause she had the itch. Yeah, she's my bitch. Oh, your mammy wouldn't wear no drawers. The main theme was the mammy wouldn't wear no drawers. I thought it was a very disgusting mammy that wouldn't wear some underwear. Said you dirty motherfucker, you old cocksucker, you dirty son of a bitch. Oh, everything you know, oh, you're a low bitch. Yes, and everything you do. Yes, baby. Lord. Yes, dirty bitch. Suck my prick. Oh, eat me up. Oh, that kind of stuff. Yes, your mammy won't wear no drawers. Said, look out, bitch, you make me mad. I'll tell you about the puppies that your sister had. Oh, it was a fad. She fucked a hog, she fucked a dog. I know the dirty bitch would fuck a frog. Cause your mammy don't wear no drawers. I went one day out to the lake. I seen your mammy fucking a snake. All she tried to shake. All she shook, shake on the cake. Mammy don't wear no drawers.
Je l'ai vu s'approcher du piano, raconte ainsi son confrère James P. Johnson. D'abord, il a enlevé son manteau. La doublure du vêtement a tiré l'œil. Il a retourné le manteau à l'envers et au lieu de le plier, il l'a allongé sur le dessus de l'instrument. Il a fait ça très lentement, délicatement, solennellement, comme si ce manteau valait une fortune et devait être manipulé avec tendresse. Il a sorti ensuite un mouchoir en soie, l'a agité, avant d'épousseter le tabouret. Il s'est assis, a frappé le piano de ses accords à lui, car chaque pianiste avait sa suite d'accords à lui, c'était sa signature, et c'était parti. Son premier rag était toujours énergique et fougueux pour épater son audience. Chicago, au début des années 20. Les Roaring Twenties font crisser les chemins de fer. Des chantiers de construction de gratte-ciel se multiplient dans cette deuxième ville la plus peuplée des États-Unis. Chicago est un immense hub de réseaux, de voies ferrées. La ville est déjà dotée d'un métro. Le tissu urbain est dense. Il s'est reconstruit à toute vapeur après le grand incendie de 1871. La cité moderne attire les travailleurs du Sud qui fuient la ségrégation raciale et les mauvaises récoltes. Ils ont été nombreux à l'emprunter, la longue route du Mississippi, ouvriers comme musiciens pour aller tenter leur chance à Chicago. Down the Dirt Road Blues, le chant et la guitare de Charley Patton racontent cette grande migration, les routes poussiéreuses, l'espoir qui sert de boussole.
Des vins musique folle, Priscille Lafitte, France Musique, c'est l'été.
Un autre musicien est venu à Chicago pour se faire un nom, et de l'argent aussi. Dans cette ville neuve, cette métropole bouillonnante d'idées et d'envie, c'est Sergueï Prokofiev. Que fait Prokofiev aux États-Unis et pourquoi atterrit-il à Chicago plutôt que de rester à New York ou en Californie? C'est qu'à l'été 1917, en Russie, il a rencontré un certain Cyrus McCormick Jr., un mania des machines agricoles qu'il a mis en contact avec le directeur du Chicago Symphony Orchestra, Frederick Stock, et avec le directeur de l'Opéra de Chicago, Cleofonte Campanini. Prokofiev est invité à les rejoindre dans la ville américaine. Il a obtenu le feu vert des autorités soviétiques pour aller prendre l'air, comme on dit. « J'avais l'intention de revenir au bout de quelques mois », raconte-t-il dans son autobiographie. « J'avais dans mes bagages la Sitian Suite, la symphonie classique, le premier concerto et mes pièces pour pianoforte. » Prokofiev voyage depuis Petrograd jusqu'à Vladivostok en mai 1918. Il séjourne au Japon dans l'attente d'un visa américain. Il réussit à prendre la mer. Il fait escale à Honolulu, atteint San Francisco, puis New York, où il donne quelques concerts, on l'a entendu hier. Et enfin, Chicago. À Chicago, Prokofiev s'établit naturellement dans le Loop, le centre-ville. Il choisit une chambre au Congress Hotel, d'où il peut voir le lac Michigan. Les salons de l'hôtel, le lobby, étaient si lugubres, écrit-il, qu'il y aurait bien vu une scène de meurtre s'y tenir. Prokofiev assiste à des soirées au Chicago Hall, où réside l'orchestre symphonique. Le directeur musical, Frederick Stock, programme des compositeurs récents ou contemporains, Mahler, Strauss, Stravinsky. Prokofiev noue des affinités avec le directeur de la compagnie d'opéra, Cleofonte Campanini. Celui-ci est intéressé par l'ouvrage « Le joueur »,« The Gambler » en anglais, « Igrok » en russe. « J'avais la réduction pour piano avec moi, mais comment me procurer la partition pour orchestre, restée au théâtre Mariinsky ?» se souvient Prokofiev. « Alors, j'ai eu une idée. En quittant Moscou, j'avais pris dans mes bagages le magazine de théâtre intitulé « L'amour des trois oranges », d'après une pièce de Carlo Gozzi, un écrivain vénitien du XVIIIe siècle. Ce texte de théâtre, qui mêle l'univers merveilleux du conte, l'humour et la satire, m'avait fortement attiré. Et pendant mon long voyage vers les États-Unis, j'avais élaboré un projet. Je l'ai soumis à Campanini, qui a immédiatement adhéré à l'idée. « Gozzi !» s'est-il écrié. « Notre cher Gozzi, mais c'est merveilleux !» l'accord des trois oranges est en marche. Le contrat est signé en janvier 1919. L'opéra devrait être prêt à l'automne. Le contrat prévoyait largement de quoi subvenir à mes besoins, raconte Prokofiev. J'ai pris en compte le goût des Américains et choisi un idiome musical plus simple que dans Le Joueur, et le travail s'est déroulé sans difficulté. Entre-temps, cependant, Sergueï Prokofiev contracte la scarlatine, il souffre de diphtérie et d'un abcès à la gorge. Il se remet malgré tout au travail, il compose la musique de l'amour des trois oranges et orchestre la partition, tout est prêt pour octobre. Quand il apprend que Cleofonte Campanini est mort. Les funérailles ont lieu dans le grand auditorium de Chicago en décembre 1919. L'opéra est reporté. Sergueï Prokofiev se retrouve démuni, sans opéra, et son concert. Pour meubler le temps, Prokofiev accepte de venir en aide à un quintet à cordes et un clarinettiste qui sont venus en Amérique pour se faire un nom. Le compositeur connaît ces musiciens juifs du temps du conservatoire de Saint-Pétersbourg. Ils annoncent vouloir financer une école de musique à Jérusalem. À vrai dire, ils avaient à peine de quoi manger, note Prokofiev. Les musiciens lui demandent d'écrire une partition pour eux à partir de thèmes juifs. « J'ai d'abord refusé », raconte Prokofiev, « parce que je ne travaille que sur mes propres compositions. Mais j'ai gardé les partitions avec moi, je les ai parcourues un soir et j'ai choisi quelques thèmes très plaisants. J'ai commencé à improviser au piano, j'ai remarqué que quelques mélodies s'agençaient bien, il m'a fallu encore 10 jours pour le finaliser. Je n'y avais pas attaché beaucoup d'importance à cette ouverture sur des thèmes juifs, mais ça a eu un certain succès. » Est-ce que Prokofiev a côtoyé à cette époque les musiciens du Steins Band venus de la Nouvelle-Orléans? Le Steins Band fréquente le même quartier que le pianiste russe, le Loop, au centre-ville, où seuls les musiciens blancs peuvent jouer. L'orchestre est constitué d'instrumentistes d'origine européenne jouant de la musique syncopée en collectives, en groupe. L'orchestre est rebaptisé ensuite l'Original Dixieland Jazz Band, premier orchestre à enregistrer de la musique de la Nouvelle-Orléans dans un studio new-yorkais en 1917. À l'aube des années 20, on commence à parler de jazz ou de jazz. C'est un mot sensuel, équivoque. Jazz me up est une invitation à se faire chauffer les sens. La ville de Chicago s'organise par quartier. Le Ku Klux Klan est très actif. L'organisation des suprémacistes blancs compte alors 50 000 membres dans la ville et les habitants gardent en tête l'été rouge de 1919 quand des émeutes raciales sanglantes ont éclaté dans les rues avec des dégâts matériels considérables. Les Noirs ont établi leur quartier dans le South Side. On peut y danser sur la musique de Fred Keppard, Joe Oliver, Johnny et Baby Dodds, Preston Jackson, Lillardine ou encore le clarinettiste Jimmy Noon. Thank you. Louis Armstrong se produit lors d'un enterrement à la Nouvelle-Orléans quand il reçoit un télégramme du grand cornettiste Joe Oliver, Papa Joe, comme il l'appelle. Il lui propose de le rejoindre à Chicago, au Lincoln Gardens, pour tenir la seconde trompette dans son orchestre. Louis accepte immédiatement et arrive à Chicago vers 11h du soir, le 8 juillet 1922, à la gare Illinois Central Station. Papa Joe est déjà au travail. « Personne n'est venu m'accueillir », se souvient Armstrong. « J'ai pris un taxi et je suis allé directement à la salle. Quand je suis descendu du taxi, j'ai entendu l'orchestre du King Oliver jouer un morceau de Jump. Il l'interprétait vraiment bien et je me suis dit « Bon Dieu, je me demande si je suis assez fort pour jouer avec ces types-là ». J'ai hésité à entrer, puis finalement, je me suis décidé. King Oliver aperçoit Armstrong au pied de l'estrade. Il arrête l'orchestre et s'écrie « Mon gars, mais où étais-tu passé? Je t'ai attendu !» Il pensait qu'Armstrong prendrait le train précédent. Dans cet orchestre, il y a Lil Hardin, qu'on entend ici dans Chimes Blues. C'est pour son swing que Lil Hardin s'est fait repérer dans la librairie à partition et a été vite débauché par King Oliver. Elle gagne désormais sa vie en jouant du piano. C'est elle qui écrit les partitions et arrange l'orchestration. Elle plaît d'emblée à Louis Armstrong qui avait reçu une photo d'elle envoyée par King Oliver. Liliane Hardin, elle, voit arriver un homme d'au moins 100 kilos et ne pense absolument pas à un flirt ce soir-là. Ce n'est que quelques mois plus tard que Liliane prête davantage attention au jeu de trompette de Louis. Elle est séduite par ce son clair, éclatant, alors que Joe met systématiquement une sourdine sur son cornet. Liliane commence à fréquenter le jeune Louis.
Thank you.
La nuit, dans le South Side, le cœur des musiques noires bat au Dreamland, au Panama Café, au Royal Gardens, à l'Elite Café. Le public est mixte, la ségrégation raciale n'est plus un problème, la prohibition d'alcool est contournée dès la tombée du soir. L'enseigne est accrochée à la façade de l'immeuble qui abrite le Lincoln Gardens, King Oliver and his Creole Jazz Band. De l'extérieur, on ne pourrait pas supposer qu'il y a là-dedans l'orchestre le plus hot qui se soit jamais installé sur une estrade. Mais une fois entré par le couloir bondé dans la grande salle du café, la chose qui frappe d'abord le regard, c'est une énorme boule de cristal à facettes qui pend au-dessus de la piste de danse. Deux projecteurs l'éclairent et font pleuvoir des taches de lumière sur les danseurs. On danse le bunny hug sur un blues lent et les danseurs s'affalent sur l'épaule de leur partenaire. Il y a un faux plafond en grillage garni de grands bouquets de feuilles d'érable artificielles et c'est bien tout ce qu'il y a d'artificiel dans cette boîte. Les musiciens ont toujours sur l'estrade un seau avec une louche. Les cubes de glace flottent à la surface. Ceux qui ont soif se servent eux-mêmes. Simplement cinglé quand il jouait, raconte le clarinettiste Buster Bailey. Le plus souvent, c'était des trucs rapides. La boîte était sens dessus dessous jusqu'à la fin du dernier morceau. J'ai cru qu'il finirait par faire s'envoler le toit de la baraque, surtout quand Armstrong a fait partie de l'orchestre. Le Royal Gardens peut contenir jusqu'à 1000 personnes et la salle est toujours bondée. Il y a des étudiants, des gamins qui ont troqué leurs culottes courtes contre des pantalons pour se donner un air plus mûr. Et parmi ces adolescents au balcon, on aperçoit le tout jeune Benny Goodman. Thank you. Dans le public, il y a aussi le cornettiste Bix Beiderbecke qui débarque avec un copain dans ce cabaret Black and Tan, cabaret de mixité raciale, où joue King Oliver. Ils ont pris avec eux 2 quarts de gin, du gin clandestinement distillé dans les baignoires, une boîte de Muggles, des cigarettes de marijuana, et s'installe à peine que Louis Armstrong fonce tête baissée dans un morceau « Bogle Called Rag ». Bix se lève, les yeux exorbités. Son copain gémit « Mais pourquoi le monde entier n'est pas là pour écouter ça ?» L'orchestre entonne ensuite le « Royal Gardens Blues ». Quelques années plus tard, c'est Armstrong qui viendra admirer le cornettiste blanc Bix Beiderbecke dans ce même « blues » du « Royal Gardens ».
Ben, musique folle, Priscille Lafitte, France Musique, c'est l'été.
Sergueï Prokofiev a-t-il, lui aussi, arpenté les quartiers sud de Chicago la nuit? Son autobiographie ne le précise pas. Nous avons quitté le compositeur russe dans le désarroi d'une production d'opéra avortée. Heureusement pour Sergueï, au début de l'année 1921, la cantatrice écossaise Mary Garden reprend les rênes de l'opéra de Chicago. Elle n'était pas effrayée par la création musicale, écrit Prokofiev. Nous avons immédiatement signé un nouveau contrat pour que les Trois Oranges soient à l'affiche la saison suivante. Ma cote américaine est repartie à la hausse. Qui est donc Mary Garden, la bonne fée de Prokofiev ? Elle est une chanteuse appréciée, très appréciée, dans le répertoire de l'époque. Elle organise, en 1921, la première captation directe pour la radio de Chicago d'un opéra écrit tout juste 16 ans plus tôt, Madame Butterfly de Puccini, dont elle tient le rôle-titre. Mary Garden est aussi la première interprète de Mélisande dans l'opéra de Debussy lors de sa création à l'Opéra Comique en 1902. Thank you. En octobre 1921, ça y est, c'est l'effervescence des préparatifs dans la grande salle de l'auditorium, une salle somptueusement constellée d'une multitude d'ampoules jaunes disposées en arc de cercle au plafond. Cette salle à Chicago a été construite 30 ans plus tôt, avec tout le confort moderne et même l'air conditionné. Les répétitions de l'Amour des Trois Oranges battent son plein avec Prokofiev, lui-même, à la baguette. Pour écrire le livret, le compositeur a trop de lacunes en anglais. Il sait que le russe serait inaudible pour le public de Chicago, alors il choisit le français. Très vite, cependant, les répétitions s'embourbent. Le résultat n'est pas conforme à ce que souhaite Prokofiev. Il finit par prendre en main la direction d'acteurs en coulisses, donne des instructions au chœur sur scène. « Un jour, je me suis échauffé », raconte-t-il, « et j'ai commis une faute d'anglais. Alors, l'un des choristes m'a lancé « Vous fatiguez pas à nous parler anglais ? La moitié d'entre nous sommes russes et juifs. »
Старушонка!
La première représentation de L'amour des trois oranges a lieu le 30 décembre 1921 devant un auditorium plein à craquer. Le succès est assuré, pense Prokofiev. Les mélomanes de Chicago sont venus par curiosité car la plupart d'entre eux assistent pour la première fois à une création. L'adhésion du public à la musique n'est cependant pas totale. Et un sentiment d'embarras domine quand la presse révèle le coût faramineux de la production, $250,000. Prokofiev a aussi quelques perspectives de concerts à Chicago, notamment la création de son troisième concerto pour piano, donné les 16 et 17 décembre 1922. Il joue aux côtés de l'Orchestre symphonique de Chicago, dirigé par Frederick Stock au Chicago Hall. Mais le pianiste reste, dans l'opinion générale, celui dont on a produit un opéra hors de prix. Je devais affronter la vérité, écrit le compositeur. Cette saison américaine était riche de promesses et elle s'était complètement délitée. J'avais $1,000 en poche, la tête qui sonnait et besoin de travailler en paix. Prokofiev quitte Chicago, l'orgueil froissé, mais avec dans ses bagages quelques belles partitions. S'il était resté un an de plus, il aurait pu repartir avec un enregistrement clé dans l'histoire du jazz, Dipper Mouth Blues, avec l'orchestre de King Oliver dans lequel joue Louis Armstrong. Thank you. Le 5 avril 1923, le Creole Jazz Band du cornettiste King Oliver est invité par la maison Janet, jeune filiale de la Star Piano Company, à graver ses derniers succès. Le label vient d'installer un studio à une soixantaine de kilomètres de Chicago, dans un hangar de son usine de Richmond, dans l'Indiana, à proximité d'une voie ferrée. Il faut adapter les horaires d'enregistrement avec ceux des passages du train pour que le silence se fasse. Musiciens présents, la pianiste Lee Lardin, le cornettiste Louis Armstrong, ainsi que des figures venues de la Nouvelle-Orléans, Honoré Dutreil au trombone, Johnny Dodds à la clarinette, Bud Scott sur un banjo à six cordes et Bobby Dodds, le frère de Johnny, à la batterie. La technique d'enregistrement est alors entièrement acoustique. Le son est capté par un énorme pavillon et transmis mécaniquement au burin graveur. L'équilibre orchestral est obtenu en jouant sur la disposition des instruments autour du pavillon. Les solistes doivent s'approcher au moment de leur solo. La puissante sonorité de Louis Armstrong l'oblige à se tenir en retrait de l'orchestre et on doit déplacer le piano de Lee Lardin pour chaque morceau en fonction de son rôle. Sur les 78 tours de 25 cm de diamètre, la durée de l'enregistrement est limitée à 3 minutes. Le trac des musiciens est à son comble, aucune correction n'est possible. Oh, play that thing! La légende dit que le batteur Baby Dodds a oublié son break à cet instant et que le contrebassiste Bill Johnson lui aurait dit « Allez, vas-y, joue !» Et finalement, cette interjection est restée comme « Vas-y, joue ce truc, joue du jazz !» C'est le premier gimmick de l'histoire de cette musique. Cet enregistrement est considéré comme le premier vrai disque de jazz. Le rapport au tempo est plus décontracté, plus posé que dans le disque de 1917 enregistré par le Dixieland Jazz Band. Avec ce morceau intitulé Dipper Mouth Blues, la carrière de Louis Armstrong, qu'on surnomme précisément Dipper Mouth ou encore Satchel Mouth, qui a dérivé en Satchmo, est lancée. Bras dessus, bras dessous, Louis Armstrong et Liliane Hardin font le tour des cabarets de la ville. Lille connaît Chicago sur le bout des doigts. Je n'oublierai jamais la première fois qu'elle m'a emmenée au Dreamland pour écouter chanter Holly Powers et May Alex, raconte Louis Armstrong. Holly avait une voix haute, très prenante, et quand il chantait What Do I Do, il ensorcelait toute la baraque. Mais Alex, elle, avait un beau timbre profond que tout le monde voulait entendre. Et puis, elle faisait le grand écart. Les habitués lançaient des billets sur le parquet qu'elle ramassait un à un dans cette position. Armstrong embauchera d'ailleurs May Alex dans ses enregistrements du Hot Five. Comme des papillons de nuit, des artistes de music hall, noirs, blancs, créoles, sont attirés par Chicago. Des dizaines de danseurs et de danseuses sont embauchés dans des revues à grands spectacles. Et des voix plus singulières se font aussi entendre, comme la blues woman Ethel Waters.
You may wonder what's the reason for this great big smile. Because I'm no man.
get it fixed. I can expand if I choose. I can play and sing the blues. There's nobody messing with my ones and my twos. Because I'm no man's mama now.
Je peux dire ce que je veux. « Aller où je veux », chante Ethel Waters. « Je ne suis la mama, la femme, d'aucun homme. » Être libre de ses mouvements, avoir autant de désir et d'appétit qu'un homme, Ma Rainey, elle aussi, le clame haut et fort. Elle veut passer du bon temps, être ivre, danser et jouir de son corps. Le blues de Ma Rainey, comme celui de Bessie Smith, est gravé par des labels qui ont créé des départements intitulés « disques de race ». Et ces 78 tours rencontrent un immense succès auprès du public noir. Montée à Chicago en décembre 1923, Ma Rainey enregistre pour Paramount ce Barrel House Blues. Papa aime son sherry et aller voir des femmes, Mama aime son porto et aller voir ailleurs aussi. Un endroit à son heure de gloire à Chicago dans les années 20, c'est le Dusty Bottom. C'est le rendez-vous de tous les jeunes. Ils viennent chaque dimanche après-midi de 3h à 7h pour danser sous une grande tente. Le piano est posé sur un plancher en parquet et tout autour, il n'y a que de la terre. Et quand les couples dansent, un nuage de poussière s'élève, si bien qu'à la fin de l'après-midi, les pieds et les bas des pantalons en sont couverts. C'est pour cela que le bal est surnommé le Dusty Bottom. Le bottom désigne à la fois le bas du pantalon, mais aussi les fesses de ces jeunes gens. Jouer au Dusty Bottom, c'est un des moyens pour un musicien de talent de se faire connaître. Et parmi les pianistes, Albert Ammons fait sensation. Il se range parmi les loud pianists, ces pianistes qui jouent fort, ce qui est indispensable dans un endroit en plein air. Le Dusty Bottom n'est pas seulement connu dans Chicago, sa réputation se répand aussi dans tout le Middle West. Thank you. Notre grand rendez-vous musical du dimanche se tient au Théâtre Vendôme pour écouter l'orchestre d'Erskine Tate. L'orchestre de Tate ne se contente pas d'accompagner les numéros de revue, il joue aussi tout un programme à lui qui va de la musique classique au jazz et se produit lors des séances de cinéma muet. Erskine Tate jouait comme Toscanini en personne, selon des témoins de l'époque. Plus tard, Louis Armstrong fera partie de cet orchestre. Mais en attendant, Louis Armstrong, lui, prend le large. Lil Hardin, avec qui il se marie en février 1924, le persuade que sa vie musicale ne dépend pas de Joe Oliver, dont les rapports avec l'orchestre tournent au vinaigre. Les frères Dodds sont persuadés qu'il les escroque et le King a glissé une arme dans son étui à trompette, au cas où. Louis Armstrong l'a reconnu des années plus tard. Lil a conduit ma vie. Elle m'a intimé l'ordre de n'être dans l'ombre de personne, de ne plus seconder qui que ce soit. Elle a eu raison, non ? Armstrong est recruté à New York pour participer à un grand spectacle, le Great Day. Au lieu de venir seul, il amène l'orchestre de Carol Dickerson au grand complet. Louis emprunte auprès de Lil $20 pour chaque musicien. À nous tous, nous avions quelque chose comme 4 bagnoles Hopmobile, raconte-t-il. Nous nous y sommes entassés et nous sommes partis pour New York. En cours de route, ils font un détour pour aller voir les chutes du Niagara. Le batteur Otis Eagleton conduit pendant que Louis roupille sur la banquette arrière. Et dans toutes les villes où ils s'arrêtent, ils entendent les disques de Louis Armstrong avec King Oliver diffusés par haut-parleur. Louis est stupéfait. S'il avait su, il aurait pris un agent pour se trouver des concerts le long du chemin. Les voilà qui débarquent dans la métropole mondiale, là où le jazz n'est encore que balbutiant. Cette grande revue des années 20 est réalisée par Catherine Prin-Legal à la technique Swad Boukorsa, attachée de production Marie Ferdinand. La suite de ces Roaring Twenties à New York, la semaine prochaine. Tout de suite, on retrouve Martin Penney et son tour de chant.
À réécouter sur francemusique.fr.